Vous écoutez France Musique.
Bonsoir Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et on vous retrouve la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin c'est impossible. Le tennis c'est pas ça.
Bonsoir, bienvenue à vous amis auditeurs du Parti d'en jouer, l'Eldorado dominical de l'imaginaire des jeunes interprètes qui viennent ici se livrer en mots plutôt qu'en notes, bien que les notes accompagnent leurs mots. C'est la partition de leur vie qu'ils essayent de déchiffrer avec nous comme s'il était 2h du matin et que les reflets de la lune étaient leur sérum de vérité, car toutes, tous recherchent une forme de vérité en choisissant précisément de se consacrer à la musique. Derrière la mécanique, il y a la poétique. Bienvenue à la soprano Léa Trommenschlager et bienvenue à vous, le parti d'en jouer, 1, 2, 3. C'est parti, maintenant il faut en jouer.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know.
Eh bien oui, quelque part, nous sommes un petit peu dans l'espace ce soir avec vous, Léa Trommenschlager. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Très bien.
L'espace parce que bon, cette chanson, j'imagine, parle à beaucoup d'auditeurs de France Musique, Space Oddity. Ça veut dire que vous acceptez de décoller ?
Ouais.
Léa ?
Prête pour le voyage sur la Lune.
Prête pour le voyage. Et puis, c'est accepter de décoller, puis accepter aussi d'être déconnecté. Parce qu'en fait, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui est perdu dans l'espace, qui se perd dans la bizarrerie de l'espace. Et c'est vrai que pour filer la métaphore, est-ce que être chanteur, c'est pas quelque part accepter cette condition de remplir l'espace par sa voix, par la vibration, on en parlera, et accepter aussi de se perdre, parce que c'est un pari risqué.
Alors la condition d'être chanteur, je ne sais pas exactement si c'est se perdre, mais en tout cas l'acte de chanter, c'est sûr que c'est une... l'acceptation, en tout cas pour moi, de perdre un certain contrôle tout en devant en garder un certain. Ça, c'est sûr qu'il y a qu'on doit accepter de perdre un certain contrôle, ouais. Pour pouvoir donner plus.
Et ça, comment on l'apprend ?
Mais je crois que c'est cette balance qu'on essaye de trouver tout au long de nos études et des différents projets. C'est ce qui se retrouve en fait dans la technique du chant, c'est-à-dire à la fois ce soutien, ce support et se laisser vibrer. C'est-à-dire ces deux choses connectées de la tête aux pieds. Alors après, ça se traduit selon les personnes, selon différentes techniques. Mais il y a vraiment cette ambivalence et ces deux forces contraires, en fait, qui permettent justement de donner un son libre et qui font que ça, je pense, peut toucher les gens. Parce que j'ai toujours cette impression que, moi, par exemple, en tant qu'auditrice, dans un spectacle, si la personne me semble libre en face de moi et semble accepter de se perdre, ben j'y vais plus volontiers et je me pose moins de questions, j'ai pas de peur en l'écoutant.
Bon, on va se poser des questions en tout cas ce soir autour de vous, Léa Tromenschlager, ravie en tout cas de vous accueillir dans le Parti d'en jouer qu'on ouvre avec le Miserere d'Allegri. Vous êtes agenouillé dans la chapelle Sixtine. C'est peut-être le vendredi saint, le moment où le Miserere résonne pour interrompre cette semaine sainte. Mozart l'a entendu, c'est le Miserere de Gregorio Allegri, pour ouvrir votre partie dans jouer, Léa Trommenschlager. Et c'est vrai que bon, ce Miserere transcrit par Mozart, magnifique, c'est du Faubourdon dans la pure tradition post-Concile de Trente, mais c'est surtout quelque chose qui évoque la prière, et ça on l'oublie très souvent. Le jour se lève, normalement, on éteint la dernière bougie du candélabre, d'où peut-être cette première question avant d'aller sur la technique. Quelle place faut-il laisser à la spiritualité? Ça paraît un petit peu large comme question, mais est-ce qu'on y pense en tant que chanteur?
Je pense qu'on y pense tous parce qu'il y a une grande partie du répertoire qui est du répertoire liturgique finalement, ou en tout cas sacré, pas forcément liturgique. Et je pense qu'au-delà de toute obédience ou croyance, il y a une lumière dans cette musique-là, comme dans la musique de Bach, qu'on ne peut pas nier et qu'on peut servir en tant que musicien, chacun avec sa foi, avec avec ses convictions, ses croyances. Et je pense que la foi en la musique, qui est une des formes de transcendance, et cette communion, notamment là, on l'entend par la polyphonie, la communion entre les gens, entre les musiciens, entre les voix, les vibrations qui s'enrichissent. Voilà, pour moi, c'est déjà la foi. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'église ensemble pour pouvoir chanter le
Et pourtant, l'église, vous connaissez, hein, Léa Trommenschlager, parce que ça évoque bien sûr des choses que vous avez chantées aussi.
Oui.
Enfant, à Mulhouse, je crois.
Ben oui, en fait, moi, j'ai découvert le chant en accompagnant ma grand-mère à l'église. Voilà, donc ça a commencé petit à petit en allant à la chorale paroissiale. Et ensuite, ça s'est développé au collège et au lycée avec un super prof de musique que j'avais qui a fondé deux chœurs, et notamment un chœur à voix égale, avec qui on a fait beaucoup de répertoires, notamment baroque.
Chanter, avoir envie de chanter, en réalité, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça provoque? Est-ce que c'est une forme de consolation? Est-ce que le fait d'avoir envie de chanter est forcément adossé à une finalité, à quelque chose qui change dans le métabolisme, dans le psychisme?
Je pense que c'est un élan, vraiment. Un élan, moi je le ressens par exemple maintenant, de temps en temps on doit faire des pauses quand même, quand on chante beaucoup, voilà, quelques jours, mais je sens cette envie, cet élan vraiment physique, qui remonte depuis le ventre environ jusqu'à la gorge. Et je sens dans ma gorge, en fait, quelque chose qui a envie de sortir. Donc ça, c'est vraiment une envie palpable. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens et de musiciens qui parlent de cette envie de chanter pour communiquer, pour s'exprimer. Moi, je ne dirais pas ça comme ça pour moi, mais plutôt la musique, en général, pour moi, est une sorte de filtre, mais pas dans un sens négatif. Une manière de colorer la vie et de colorer le temps en regardant justement la vie différemment.
Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche pour retrouver le vrai, faire table rase du passé. La discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore moi. Les pluies acides déchantent les sapins, j'y peux rien, j'y peux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin. Je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi.
Léa Trommelschlager, vous parliez du regard sur la vie qu'offre l'acte de chanter. Ici, Alain Bachung, avec Angora, montre-moi d'où vient la vie, justement, le souffle coupé, la gorge irritée, je mets poumoner sans broncher. C'est votre partie d'en jouer et c'est vrai que c'est un peu aussi, je trouve, une définition sonore de ce que pourrait être l'acte de chanter. On a ouvert votre partie d'en jouer avec David Bowie, justement, ce côté espace. Là, il y a un recentrement. Et puis surtout, là, nous sommes dans votre imaginaire, dans une voiture. Il est dimanche soir, quasiment, je pense, d'ailleurs, à la même heure. Vous rentrez de chez votre grand-mère et puis vous écoutez Alain Bachung.
C'est les souvenirs que j'en ai, en tout cas, de cette musique-là qui a bercé mon enfance. C'était vraiment... c'est lié à ça, à un sentiment très heureux de rentrer à la maison, d'avoir passé un bon week-end et puis mêlé à cette musique-là. Et, alors ça, c'était vraiment quand j'étais petite, mais après, avec du recul, on apprend à aimer ses habitudes ou à ne pas les aimer. Et j'ai découvert un Alain Bachung poète dans la scansion et dans cette manière si étonnante de chanter, vraiment, entre le parler, chanter, et puis bon, cette prose poétique qui me touche énormément. Et voilà, et c'est un artiste, c'est vrai, que j'ai suivi au fur et à mesure des albums, qui a fait aussi un grand travail au niveau des arrangements et au niveau du travail avec des arrangements symphoniques, notamment. Et voilà, et c'est vrai que c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée et que j'écoute encore maintenant.
Ici, là... Dans le bleu de Prusse, c'est comme dans du formol, ta chanson, comme un fœtus qu'on n'a pas pu jeter. Mon petit chou, mon tigre, va te faire foutre. Je vais pleurer, merde. Tu vois, j'ai allumé une bougie pour te fêter. J'ai bu un coup de gnôle périmé, c'est pas bon pour la tête. J'ai dansé, comme avec toi je dansais avant que... Pardon ? Ah oui, oui, tu as raison. Je veux me laver les oreilles. Tu as raison, ça change tout d'avoir les oreilles propres quand on est veuve. Pour un peu, je finirai l'agneau à 80 degrés. Et va te faire foutre, je bois si je veux. T'es pas là pour me dire, Liane, doucement, mon petit chou, elle bastonne cette bibine. T'es pas là pour me faire danser saoul contre toi. Mon petit chou, mon tigre, tu trouves ça malin de disparaître? J'ai besoin de toi, là, ici, là. Déconne pas. Allez, je suis pas si saoule. Je me trouve juste un peu déplacée. Plus trop à ma place.
My true love's hair, his face so soft and wondrous fair, the purest eyes and the strongest hair. I love the ground unwasted, black is the color of my true. Thank you. shall ever ground where he goes. And still I hope that the time and he and I will be as one. Black is the color of my true love's hair.
Black is the color of my true love's hair, Nina Simone, précédée d'une pièce de Fabrice Melchior, L'Inattendu, récitée par Anouk Grimbert, sur France Musique, dans Le Parti d'Enjoué de Léa Trommenschlager. Alors là, quand même, on vous doit quelques petites explications, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de hasard, justement, dans ces enchaînements. Tout d'abord, L'Inattendu, l'imprévu, c'est surtout pour témoigner du fait que le grain de la voix sans décor, c'est quelque chose qui vous a bouleversé étant jeune, notamment en écoutant la radio.
Mmh. C'est vrai que j'ai souvent écouté la radio le soir et que grâce à ça, j'ai découvert plein de pièces de théâtre et par des voix. Et après réflexion, je me suis dit que c'était quand même incroyable d'en venir au théâtre par la radio et par un théâtre qui n'était que lu, quoi, donc par des pièces radiophoniques. Et j'ai vraiment développé un intérêt pour ça. C'est-à-dire que j'ai souvent lu des pièces de théâtre ensuite, en allant acheter la référence que je m'étais notée, sans même les avoir jamais vues monter, alors qu'on n'a pas forcément cette approche-là du théâtre. Et on se dit ensuite aussi que toutes les possibilités que peut avoir une voix, sans le décor, sans costume, sans mise en scène, sont déjà tellement fortes que du coup ça fait que rêver de faire de l'opéra ou de faire du théâtre. Parce qu'on se dit, si on est soutenu par tout ça, ça peut être que un feu d'artifice, quoi.
Ça permet aussi, j'imagine, peut-être de se recentrer sur ce qui est essentiel dans la représentation théâtrale.
Complètement.
Qui est souvent brouillé par énormément de paramètres, je veux dire, mais...
Mais là, ça permet aussi, par exemple, dans un parcours de jeune chanteur ou de jeune performeur, de se dire, bon, il y a le théâtre, il y a le chant, il y a le jeu, où est-ce qu'on se situe? Et c'est vrai que moi, j'ai fait un petit détour par le théâtre et je me suis vite rendu compte que ma place était plutôt au niveau du chant, parce qu'il y a une... Il y a une sorte d'évidence dans le chant par le fait que soit donné beaucoup d'éléments par la partition, notamment le rythme et les silences, les intonations. Alors bien sûr, on a une part de liberté, mais il y a quand même... on a énormément d'éléments qui nous sont donnés dans la partition. Alors qu'un texte pur, pour moi, je trouve ça beaucoup plus difficile, en fait.
Alors, éléments dans la partition, ça tombe bien, parce que ce qu'on va écouter pose la question, justement, de la partition et de cette zone interstitielle, limite hybride entre le parler et le chanter.
Den Wein, den man mit Augen trinkt, gieß nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine Springflut überschwemmt den stillen Horizont. Gelüste, schauerlich und zart.
Gedichte, den die Andacht treibt, berauscht sich an den heiligen Tranke. Geht Himmel, wenn er verzückt das Haupt. Und daumelt, saugt und schlürft er den Wein, den man mit Augen trinkt.
Le mythique Pierrot Lunaire de Schoenberg dans la version de Marianne Pousseur avec Philippe Hervé et l'ensemble Musique Oblique avec vous, Léa Traumann-Schlager. Alors, on a écouté Nina Simone, bien sûr, dans cette virtuosité d'un Sprechgesang totalement essentiel, quoi. Et c'est peut-être ça aussi que permet de retrouver cette recherche sur la forme sonore qu'on doit donner à du texte mis en forme, oui, mis en son, mis en vibration. Et le Pierrot Lunaire, vous l'avez chanté, ça vous a ouvert sur justement cette esthétique du mélodrame matinée de cabaret, enfin de formes qui dépassent les grosses productions d'opéra. Ça, vous avez découvert ça quand? Quand vous étiez à Mulhouse ou à Strasbourg?
Quand j'ai commencé mes études de chant à Strasbourg, au Conservatoire de Strasbourg. Et c'est vrai que j'ai découvert ça grâce à Françoise Kubler. On a monté ce projet ensemble. Quand on est au Conservatoire, c'est quand même un petit défi hein, de se dire qu'on va monter le Pierrot Lunaire juste pour réunir tous les musiciens et se dire qu'on va répéter ça. Et puis, c'est en tant que chanteur, c'est un questionnement sur la voix. Parce qu'effectivement, moi, j'adore cette version-là. Je trouve que ce cause faire Marianne Pousseur est incroyable et pour moi ça répond vraiment aux directives en fait de Schoenberg dans sa préface au Pierrot Lunaire. Mais il y a d'autres versions et qui sont reconnues et établies où bien sûr les notes sont toutes chantées et voilà. Et pour moi là il y a vraiment une réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est ni chanté ni parlé? Donc c'est pas que
déclamer. C'est ce que dit Schoenberg dans la préface.
Exactement. Ouais. Et que la chose à laquelle on doit se rattacher le plus, c'est le rythme, finalement. Et avec ce nouveau système de notation. Hein, voilà, donc, moi, c'est vrai que c'est une pièce exigeante qui a marqué aussi mes débuts de la réflexion sur l'utilisation de ma voix comme instrument et pas juste comme moyen du beau.
Bah, le beau peut être laid, hein, c'est aussi la révolution.
C'est ça. Et pour moi, ça a vraiment été le point de départ pour ensuite découvrir d'autres musiques et des musiques contemporaines avec des compositeurs que je pouvais rencontrer, avec qui je pouvais travailler en direct.
Mais c'est presque à la recherche de l'âme, en fait. Ce que vous dites, c'est que derrière la technique, dans laquelle d'ailleurs on peut parfois se réfugier, j'ai l'impression, en tant que chanteur, c'est-à-dire qu'on apprend à faire un beau legato, on apprend à poitriner quand il faut, à utiliser sa voix mixte, etc. Mais tout ça, c'est un filtre analytique, technique. Mais que l'âme est souvent dans la coloration, dans quelque chose qui dépasse cette simple technique, et que le Sprechgesang permet précisément de relire aussi l'ensemble de toute la vocalité.
Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que la technique libère vraiment, et est un bon moyen pour laisser son âme sur scène tranquillement se déployer et essayer de communier et de communiquer avec le public. Parce que quand on est sur scène au moment d'un concert et qu'on pense à sa technique, c'est plus difficile de se libérer. Ouais, c'est plus compliqué. Je pense qu'on se souhaite tous en tant qu'interprètes de vraiment que nos heures de travail en dehors de la scène servent à ça, à ce qu'on soit libre au moment où on a envie de partager notre musique.
Bah, y en a qui pensent, je ne sais plus qui me disait ça, que en fait, le concert, c'est encore une séance de travail. Ce qui permet aussi d'envisager cet événement un peu différemment, mais enfin.
Bah, c'en est une, peut-être pour moi, moins consciemment, mais on le sait tous, quand on joue une œuvre pour la première fois devant un public, elle est radicalement différente ensuite quand on la reprend. On a beau l'avoir travaillé des heures et des heures en studio, chez soi, avec ses partenaires, etc. À partir du moment où on l'a donné, on fait un bond incroyable. Et ça reste vraiment encore un des mystères. Ouais.
Alors, on parlait de technique, hein, on parlait de Sprechgesang. Là, c'est un petit peu de ça dont il est question dans ce qu'on va entendre. C'est un document assez rare. C'est la voix de la grande wagnérienne, justement, Kerstin Flagstadt. C'est un extrait A Singing Lesson où elle donne un conseil très important pour celles et ceux qui veulent chanter Wagner. Écoutez bien, ça dure 30 secondes, mais le message, il est à la toute fin.
Many young people write to me for advice about singing Wagner. Some of them ask me if I will give them lessons. Others want to know how they can make a start, as if it were possible to start one's career with Wagnerian roles instead of ending with them. Now, I'm not a teacher, and I never wanted to be. I wasn't taught to explain, only to sing. But perhaps I can still give good advice about many matters connected with the singing of Wagner roles. And my first piece of advice to young and immature singers can be put into three words. Leave Wagner alone.
La très grande Kerstin Flagstadt dans le parti d'en jouer de Léa Trommenschlager dans la serre Les Wesendonck-Lieder de Richard Wagner. Leave Wagner alone. Laissez Wagner en paix, laissez-le tranquille, surtout n'y touchez pas.
C'est ça, n'y touchez pas.
C'est ce que dit Kerstin Flagstadt avec ses réverbes de l'époque, qui a l'impression qu'elle s'adresse à un stade de foot. Mais alors, c'est intéressant parce que, bon, énorme voix aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une identification de votre part à cette chanteuse ?
Si, et c'est pour ça que je pense que ce conseil, je le prends assez au sérieux. J'ai beaucoup de respect pour elle parce qu'elle a fait une carrière incroyable. Et que, qu'en tant que jeune chanteur, on s'intéresse d'assez près à ces gens qui ont fait une carrière vocale longue et saine jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, ça m'impressionne vraiment, quelqu'un qui a chanté tous ses rôles et beaucoup Wagner. Et qui termine sa carrière avec une Didon de Purcell
intacte.
Et pour moi, c'est sûr que c'est une leçon. Et je comprends très bien ce qu'elle dit un peu plus tard dans l'interview où elle dit que Wagner, c'est des muscles qu'on entraîne à travers d'autres répertoires. C'est une endurance. Donc voilà, donc c'est forcément des partitions qu'on peut commencer à travailler. Petit à petit, mais chanter un rôle wagnérien et prendre ce risque-là trop tôt, je pense qu'elle a raison. Et après, c'est vrai qu'elle parle des chanteurs de moins de 30 ans. Je pense qu'il y a tellement de répertoires. Après, bon.
Bah, il y a deux écoles. Hein. Ouais. Il y a deux écoles. C'est vas-y, t'as le droit d'y toucher ou surtout n'y touche pas. Et il y a comme une sacralisation par défaut qui opère aussi. Mais. C'est vrai que cette question-là de la carrière, moi, me pose beaucoup de questions et je voulais avoir votre avis. Pourquoi on ne dirait pas que la carrière, c'est 15 ans, basta, that's all.
Comme certains sportifs.
Pourquoi vouloir durer ? Et pourquoi durer est synonyme, est comme une vertu qu'on doit absolument admirer ? C'est-à-dire durer dans le temps.
Il y a quand même une chose assez importante, c'est que la voix se bonifie quand même et que je pense que l'âge d'or entre 30 et 40... C'est c'est pas l'âge d'or chez un tennisman. Donc, il y a forcément cette pente-là. Et puis après, il y a peut-être la maturité de l'interprétation.
Et ça, c'est respectable.
Qu'on acquiert. Et j'ai l'impression aussi, en écoutant mes aînés, qu'il y a quand même beaucoup de voix avec une bonne hygiène de vie et un travail régulier, ça, je crois que c'est ce qu'on peut retenir, qui dure, en fait. Et parce que peut-être que c'est difficile aussi d'arrêter. Donc on a envie de faire durer ça, et si l'instrument est là, on continue.
la toute fin du Tristan de Wagner, la mort de l'amour, enfin, on peut le voir de plein de manières différentes, on dit que c'est la mort d'Isolde, hein. Un peu plus compliqué que cela, le Philharmonique de Vienne, Sir George Salty, avec la grande Birgit Nilsson, Isolde magnifique, et en dépit de ce que disait Kirsten Flagstadt, Léa Trommeslager, c'est vrai qu'on a envie quand même de chanter ça, même si on est jeune.
Ça donne envie, oui. Surtout quand on écoute quelqu'un comme Birgit Nilsson, ça donne envie, vraiment.
Et c'est un des disques que votre professeur de chant vous a offert quand vous étiez à
Strasbourg. C'est vrai que je suis arrivée au conservatoire de Strasbourg en 2005. Et en décidant à vouloir chanter.
Parce qu'en fait, vous avez fait une hippocagne.
Voilà, après le bac, je n'étais pas du tout décidée à en faire ça de manière professionnelle. Mais ça m'a bien manqué, donc j'ai passé le concours pour le conservatoire. Et donc mon professeur, Henrik Seifert, m'a entendu et m'a dit que bon, ben, il fallait maintenant travailler à développer ma propre voix. Et lui avait... entendu dans ma voix ce qu'elle serait plus tard avec une vraie technique. Et donc, il m'a offert beaucoup de CD avec des gens qui sont devenus maintenant des grandes inspirations pour moi. Kirsten Flagstadt, Birgit Nilsson, Renata Tebaldi, bien sûr la Callas, Gundula Janowitz. Et voilà, et tous ces grands rôles allant de Puccini en passant par Strauss et Wagner, évidemment. Et Verdi, et je crois qu'il a eu l'intuition, bien sûr, de ne pas me faire travailler ce répertoire au début, parce que j'avais 19 ans, mais de me donner comme exercice des extraits, en fait, d'air. Donc une ou deux phrases qu'on déclinait, du coup, sur différentes tonalités, et qui m'ont donné le goût, en fait, d'aller chercher dans ces airs, d'aller chercher dans ces œuvres, comment ça sonnait, quelles étaient les différentes interprétations, et puis tout ça m'a donné le goût aussi de regarder une partition et de voir ce qui était marqué. Et là, on se rend compte aussi qu'on a une tendance comme ça populaire à croire que Verdi, Wagner, Strauss, c'est beaucoup des gens posés sur une scène qui hurlent assez fort. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de nuances dans ces partitions. Et qu'en 100 ans, il y a eu des écoles très différentes d'interprétation. Et que les gens qui ont créé ces rôles, à l'époque, faisaient à la fois de l'opérette et de l'opéra, et du grand opéra et de l'opéra baroque et du lied. Et ça remet un peu aussi à sa place. Et du coup, on se dit, bon, ben voilà, allons-y petit à petit. Et surtout, ce qui est génial en tant que chanteur, et à la fois un petit peu effrayant, c'est qu'on se rend compte qu'on a une voix particulière. Un timbre qui, en fait, nous définit pour certains rôles. Et c'est à la fois très riche quand on sent que ça correspond notamment à sa personnalité ou alors qu'on sent tout à coup, même si on n'est pas tout à fait prêt, que cette musique nous va et est faite pour nous. Et à la fois effrayant parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas chanter ou qu'on ne devrait pas chanter. Mais c'est un beau cadeau de découvrir ça.
Thank you.
sur le canto della fanciulla de Giacomo Leopardi pour soprano, violoncelle et clarinette. C'est le canto de Pascal du Sapin, chanté par quelqu'un de très important pour vous, Léa Trommenschlager, c'est Françoise Kübler,
oui,
que vous avez eu comme professeur. Et c'est vrai qu'on parlait d'être en phase avec son professeur, de générosité aussi beaucoup, j'imagine, et d'avoir l'impression que quelqu'un, en plus de vous épauler, vraiment vous accompagne et vous enveloppe et vous aide à avancer.
Oui, ça a été, c'est toujours une personne très importante pour moi. C'est vrai qu'au-delà de m'avoir initiée au répertoire de musique contemporaine et d'avoir eu cette générosité de me faire partager toutes ces créations qu'elle a pu faire et qu'elle fait encore, il y a eu cette confiance en fait, dont on a besoin en tant que chanteur. Un professeur, ce qu'il peut vous apporter de mieux, c'est vraiment cette confiance quand il vous regarde droit dans les yeux, qui vous dit « tu as le droit de tout faire et tu peux tout essayer », en tout cas dans ce cadre du cours, etc. Et du coup, ça libère quand on sent que tout est possible et qu'en fait, rien n'est faux. On le trouve finalement par soi-même, mais on a besoin de cet appui-là et de cette sorte de cocon qui fait qu'on a le courage de chercher des sons qu'on ne connaît pas, que ce soit les graves, les aigus, les legatos, le soutien, on ne sait pas exactement où on sait. Et voilà, et le chant et l'apprentissage du chant, c'est vraiment quelque chose sur la communication. On a besoin de trouver un professeur avec qui on se comprend, avec qui on a le même langage pour justement avoir une connivence sur ces images qui font qu'on apprend une technique. Parce que quand on regarde les chanteurs sur toutes les scènes en ce moment, il y a peu de techniques qui se ressemblent. C'est assez incroyable d'entendre ça. Les gens ne chantent pas de la même manière, mais peuvent émouvoir également. Donc, chacun doit trouver ce qui est le plus honnête pour lui. Et aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire quelque chose qui nous permette d'avoir du plaisir en chantant. Soit qui nous rendent pas fous à chaque fois d'entrer sur scène et qui nous permettent de transmettre quelque chose.
Et c'est pour ça aussi, j'imagine quand même qu'une petite dose d'iconoclasme est plutôt bénéfique dans l'apprentissage, parce qu'on parlait en préparant de l'émission d'une masterclass d'une semaine que vous avez faite avec Ian Bostridge, un grand chanteur anglais, qu'on va écouter justement, et qui n'est pas iconoclaste à sa manière, mais disons qu'il se permet des choses, ce que vous me disiez, que d'autres ne se permettraient pas. Et ça coïncide complètement avec son personnage et sa vocalité à lui, le fait de bouger, enfin d'avoir une attitude aussi qui n'est pas une attitude classique figée en récital de lead et mélodie, par exemple. Une technique, alors c'est vrai que vous parliez de la technique Léa Trommenschlager, mais parfois on n'entend pas bien quelle technique utilise un chanteur. C'est-à-dire, on n'arrive pas bien à comprendre vraiment comment le son est produit et puis s'autoriser aussi des choses qui, d'un point de vue esthétique, peuvent faire crisser certaines oreilles.
Oui.
Et ça, on se dit quand même que finalement, le modèle, c'est ça, parce que c'est le modèle de quelqu'un qui s'est trouvé.
Exactement. Et pour moi, ça, c'est très riche et en même temps très encourageant, parce que je me rappelle vraiment de la première fois que j'ai vu Ian Bostridge en concert. C'était un récital à l'Opéra de Strasbourg. Et je me rappelle, avec plusieurs de mes camarades, on était sortis de là en se disant... alors, il y avait des gens qui n'avaient pas aimé, et puis c'est un peu tout ou rien aussi, avec des artistes aussi forts. Et moi, j'étais surtout choquée d'avoir été aussi émue et aussi impressionnée par quelqu'un qui faisait tout ce qu'on m'avait plus ou moins interdit de faire au conservatoire et qui n'entrait pas dans les codes, pas se tenir droit auprès du piano, se tourner tout le temps vers son pianiste.
Un peu nonchalant.
Voilà, avoir des partitions si on en a besoin ou pas, les planquer un peu dans le piano, faire des sons complètement, complètement fous, en fait. Et je pense que ça, quand on arrive à assumer le geste qu'on a vraiment envie de donner, on rencontre forcément un public. Et peut-être que c'est aussi une façon de se dire, ben, on ne peut pas plaire à tout le monde, en fait. Et ce n'est pas grave.
Return again in
Oh might those sighs and tears return again to my breast and eyes. Un sonnet de John Donne, magnifique musique. Et on comprend pourquoi la musique pop est née en Angleterre en réalité.
Exactement.
C'était un bond entre le 16e siècle, le 20e siècle avec Britten et puis notre 21e siècle, l'étage du 20e siècle. Ian Bostridge, dont vous nous parliez, Graham Johnson au piano. Les sonnets de John Donne, vraiment très 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 belle musique. Et puis Léa Trommelschlager, pour refermer ce parti d'enjoué, c'est vrai que vous avez rencontré aussi, vous prenez des cours souvent avec Julia Varadi, vous avez rencontré de manière un peu éclipse aussi Fischer Dieskau, qui vous a donné un conseil assez important, que je trouve, parce qu'on se dit que parfois l'enseignement ça tient à pas grand chose en fait.
Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer et que j'ai été très touchée par cet homme très grand, très fin, d'une lumière incroyable, et puis qui a été tout de suite très concentré dans la musique. Et on a vraiment fait un travail musical. C'est vrai que dans le champ en général, on peut aller très vite hein, sur le psychologique, le physique, la présentation.
Les chakras, les énergies.
Exactement. Et là, on est vraiment resté dans le texte et la musique. Et je me rappelle très bien, on a travaillé sur un des leaders de Wagner et sur un lead de Schumann, de Murten. Et il m'a dit, je pense que vous avez souvent entendu qu'on ponctue une phrase avec les consonnes, donc on fait une grande ligne vocale et puis de temps en temps, il y a des consonnes qui viennent trancher comme ça la ligne. Il m'a dit, mais moi, je sais pas du tout ça. Imaginez que vous chantez les consonnes. C'est-à-dire que ça a autant d'importance de vraiment chanter. Et donc, il faut faire un travail pour trouver comment on peut chanter ça. Parce qu'on dit toujours que les consonnes, ça ne se chante pas, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est une phrase qui me reste toujours et que j'essaye d'appliquer et sur laquelle je travaille.
Mais en tout cas, un très, très grand merci à vous.
Merci
beaucoup. Et on se quitte avec, c'est à vous de la danser, Gundula Janowitz.
Gundula Janowitz, beim Schlafen gehen.
Un grand merci, Léa. Beim Schlafen gehen de Strauss, les derniers leaders Gundula et Janowitz pour refermer ce parti d'enjouer avec vous, Léa Traumann-Schlager. On vous met bien sûr sur le site internet de France Musique, à la page du parti d'enjouer, toutes les infos concernant votre actualité, Léa. Un grand merci à vous. Éric Lancien a réalisé cette émission. Jean-René Bonissan nous a aidé à la préparer avec aujourd'hui la prise de son et au mixage. Benjamin Vignal, un grand merci à eux trois. Bientôt 22h sur France Musique, vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau comme si vous y étiez. Bonsoir, Jérémy.